Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Les échos de vacarme.
Héritage, le prix des liens.
Laurence Di Félix et Raphaël Bouchet.
J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre émission sur les successions. J'ai perdu une cousine qui était veuve, sans enfant, sans neveu et nièce. Cette cousine avait une certaine fortune. Elle se trouvait dans un EMS à Winterthur. Et il s'est trouvé que elle avait un petit cousin qui s'est occupé d'elle passablement et malheureusement, cette cousine n'avait pas fait de testament. Ce qui fait qu'après son décès, il s'est présenté au juge de paix et puis on lui a dit « Mais non, monsieur, il n'y a pas de testament, donc ce n'est pas vous qui êtes l'héritier. » Et puis, ils ont redécouvert un autre cousin qui était aux États-Unis et qui, lui, était un héritier direct. Finalement, ce petit cousin qui s'est vraiment occupé d'elle, il n'a touché que des clopinettes, alors que le cousin parti aux États-Unis, qui n'a rien fait du tout et qu'on a découvert vraiment par hasard, eh bien, lui, il a touché le gros pactole. Mais ça, c'est la loi et malheureusement, c'est difficile à comprendre quelquefois.
J'ai une amie qui a dû vendre sa maison parce qu'elle n'avait plus assez d'argent pour pouvoir vivre normalement. C'est triste. Moi-même, je devais aussi hériter un petit chalet. Puis à cause des impôts, on ne peut pas les avoir.
Moi, j'ai perdu mon papa il y a quelques années. Pour moi, ça a été extrêmement compliqué de choisir et de trier des objets. Et je suis tombée dans un tiroir sous plein d'affaires sur un petit portrait de ma maman jeune qui était morte 20 ans plus tôt, assez tragiquement. Mes parents étaient divorcés déjà depuis quelques années quand ma mère est morte. Et ça m'a touchée en fait de récupérer ce petit portrait que j'aurais pas pensé retrouver là dans un tiroir de mon papa 20 ans plus tard.
Moi, ma mère est morte il y a 28 ans et la succession n'est pas terminée grâce à la gentillesse, la méchanceté, l'horreur de mon frère et de ma sœur. Pour en faire un film, j'avais signé un contrat au mois de juin après 9 ans de conciliation en justice. Et mon frère et ma sœur ont fait recours au mois de septembre. C'est reparti à la Cour suprême ou je ne sais pas combien de mois.
Mon histoire est un peu compliquée. Donc, l'héritage, ma sœur a limité la signature de ma mère. Donc, elle a tout. Elle a mis l'argent sur des comptes offshore. Et voilà, donc c'est un peu compliqué.
Je vais avoir 83 ans, je suis divorcée. J'ai 4 enfants et 6 petits-enfants. Et maintenant, j'utilise beaucoup de mon temps pour passer à travers tous mes papiers et à distribuer les quelques... J'ai pas grand chose, mais à essayer de trouver la personne à qui ça fera vraiment plaisir.
Bravo pour ce témoignage. À notre mort, on n'emportera rien d'autre avec soi que ce qu'on a dans notre cœur et ce que la vie nous a enseigné. Quand la famille doit débarrasser l'appartement du défunt, quel casse-tête et sujet de querelle qui aurait pu être évité en ayant partagé ce dont on n'avait pas besoin. De faire tout cela ne nous rapproche pas de la mort pour autant. Au revoir.
Les échos de vacarme.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci pour ces messages que vous avez laissés nombreux sur le répondeur de Vacarme en réaction au reportage de Catherine Erard. Et vous, êtes-vous heureux en héritage? En tout cas, ce qui prévaut dans ce qu'on vient d'entendre, c'est plutôt l'amertume, la colère ou le sentiment d'injustice. Combien de fratries se déchirent autour de l'argent ou des biens laissés par leurs parents? Les conflits sont parfois longs, rocambolesques, de quoi faire quelques films en effet, comme nous le dit cet auditeur avec une pointe de dépit dans la voix. Avec nos deux invités ce matin, nous abordons les aspects à la fois concrets mais aussi symboliques autour des héritages, puisque bien souvent la question n'est pas de savoir combien je reçois, combien tu me laisses, mais plutôt combien tu m'aimes et quelle est ma place dans la famille. Bonjour Laure Tonnet.
Bonjour.
Vous êtes notaire dans le canton de Vaud, à La Sara précisément.
C'est exact.
Bienvenue dans l'émission.
Merci.
Et à vos côtés, Christian Junot. Bonjour à vous aussi.
Bonjour.
Vous êtes coach, spécialiste du lien à l'argent et auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » paru aux éditions Erol. Est-ce que vous avez envie de réagir à ce qu'on vient d'entendre pour commencer? Lortona.
Alors, écoutez, volontiers, le premier commentaire parlait de fiscalité, en fait, puisque la personne qui allait hériter de ce petit chalet n'allait même pas pouvoir en hériter. J'aimerais juste préciser que la fiscalité est très différente d'un canton à l'autre, mais que c'est vrai que parfois, la fiscalité est dirimante hein, dans les successions et empêche certaines personnes de pouvoir toucher enfin un bien dans leur vie, notamment quand le degré de parenté est très éloigné. Le fisc est parfois très gourmand.
Et vous, Christian Junot, qu'est-ce qui vous a interpellé ?
Ben, je dirais que la diversité des messages et des problématiques montre à quel point justement tout ça peut être complexe, et d'un point de vue fiscal, administratif, et d'un point de vue relationnel, évidemment, c'est ce qu'on a entendu aussi.
On meurt toujours plus riche en Suisse, on dépense assez peu sa fortune, puisque en moyenne, en 2020 par exemple, il y a 95 milliards de francs qui ont été hérités. C'est un chiffre qui ne cesse d'augmenter depuis plusieurs décennies. Qu'est-ce que ça raconte pour vous? Est-ce que ça dit quelque part notre peur du manque? On dépense peu sa fortune dans le fond.
Alors je pense que la peur du manque est quelque chose de bien présent, en tout cas quand je questionne ma communauté, ceux qui me suivent, c'est de loin la problématique numéro un qui sort sur la relation à l'argent. Et en tant qu'ancien conseiller en placement financier dans une grande banque, j'ai pu voir que même les millionnaires pouvaient avoir cette peur de manquer malgré les millions. Donc on voit bien que ça se situe à un autre niveau que juste une question de est-ce qu'il y a de l'argent ou pas.
À quel niveau ça se situe? Qu'est-ce qu'on projette sur l'argent?
Alors il y a les projections, mais effectivement il y a surtout à travers les projections le pouvoir que nous donnons l'argent. C'est-à-dire que l'argent, regardez l'expression « gagner sa vie ». Quand on parle de gagner sa vie, on est en train de dire combien d'argent tu gagnes, en l'occurrence. Donc si on parle de gagner sa vie, ça sous-entend qu'on peut la perdre. Donc on voit bien qu'à travers cette expression, les histoires d'argent, c'est une question de vie ou de mort qui se joue pour beaucoup de personnes, de là toute la pression qu'il peut y avoir derrière.
Et la mort est bien présente, justement, lors des héritages. Je vous propose qu'on se plonge tout de suite dans le premier extrait des reportages de la semaine. Catherine Erard a rencontré Natacha, qui a hérité d'un père qu'elle a connu sur le tard.
Alors je tremble.
Sur la table, là devant nous, vous avez posé un objet. Alors, voilà, c'est une petite boîte en bois. Vous l'ouvrez et dedans, il y a une petite balance, c'est ça?
Une petite balance d'horloger. Et cet objet me plaît parce que il y a peu de choses que j'ai prises chez mon papa. Et la balance, je trouve que c'est très, très symbolique avec ce qui s'est passé, ce qu'il m'a transmis. Un papa que j'ai connu sur le tard. Et regardez cette balance qui arrive plus ou moins à son équilibre aujourd'hui. Et c'est très symbolique, puisque j'ai hérité de lui de l'argent et que cet argent a servi à payer mes bêtises, notamment une faillite personnelle.
Si on décrit cet objet... Vous tremblez, hein. Je vais le prendre, hein, parce que c'est vraiment une petite balance d'horloger avec deux petits plateaux. Et puis on la tient à la main. On voit cet équilibre qui s'instaure petit à petit. Et pour vous, l'héritage a permis de rétablir l'équilibre?
Totalement. Pour moi, c'était deux relations, à la fois avec maman, mais aussi avec papa, qui étaient un peu mouvantes, bousculées. Beaucoup d'émotions, beaucoup de chagrin, beaucoup de joie aussi, parce que ça, on peut le dire. Mais aujourd'hui, elle s'est équilibrée. Je n'ai pas grandi de manière linéaire, on va dire. Donc, j'ai dû me construire seule. Et en fait, cette construction seule, elle est passée par des révoltes. Et en fait, la révolte a été sur l'argent, notamment. Parce que voilà, je profitais, et puis je ne payais pas des choses. Et puis je me disais, de toute manière, il faut que je fasse des études. Je ne peux pas, je dois m'en sortir.
Parce que votre papa ne finançait pas vos études?
Non, mon père et puis ma maman non plus.
C'est facile d'accepter un héritage avec quelqu'un avec lequel on est peut-être un petit peu en tension. Comment on le reçoit?
Alors, on le reçoit pas bien, hein, parce que c'est difficile, même si on se dit « ah, c'est fabuleux », voilà, il y a quand même toujours derrière cette note, ce ressentiment, se dire « mais ça aurait pu être autrement et ça ne rachètera pas la relation que nous n'avons pas eue finalement ». Moi, il a fallu que je répare ça aussi, et c'est vrai que réparer avec l'argent de mon papa ce qui a été de l'ordre de laisser aller certaines choses avec les impôts, hein, l'administration fiscale cantonale, et ben voilà, ça a été réparateur, mais vraiment réparateur, et j'ai dû accepter ça, j'ai dû me dire « ok, voilà, c'est comme ça, c'est comme ça ».
Laure Tonnet, Natacha dit avoir trouvé un équilibre grâce à cet héritage. En quoi ça résonne avec ce que vous, vous entendez dans votre étude de notaire ?
Alors, ce que j'ai trouvé vraiment intéressant dans cette interview, c'est qu'elle parle de réparation, d'équilibre, hein, puisqu'elle a ce symbole de la balance de l'horloger et de la réparation. Elle dit que l'argent ne répare pas finalement le manque de relation, l'absence de relation qu'elle a eue avec son père. Mais ce que je constate, c'est que son père, lui, il a essayé par son héritage de réparer la relation. Si on se place du point de vue du défunt, peut-être que l'éclairage est très différent du point de vue du défunt. Il aurait pu, par des dispositions testamentaires, il n'aurait pas pu complètement exhéréder sa fille, hein. Il n'aurait pas pu faire en sorte qu'elle ne reçoive rien, parce que le droit suisse protège les descendants. On a encore un droit des réserves en droit suisse, hein. La réserve, c'est la part que l'on ne peut absolument pas enlever, notamment à ses propres descendants. Mais il n'a pas pris apparemment de disposition testamentaire pour réduire en tout cas sa fille à une part minimale. Et cet argent, même si pour elle, ben, c'était quelque part un peu tard, puisque son père n'a pas soutenu financièrement quand elle en avait besoin au moment de ses études, quand il était encore en vie. Mais cet argent a quand même servi ensuite pour elle à réparer ce qu'elle avait fait comme bêtise en fait pendant sa vie. Et je trouve que ce point de vue-là est intéressant. Il faut savoir que le droit des réserves est un droit absolu en droit suisse. Le législateur s'est posé récemment la question de savoir s'il fallait abroger complètement ce droit des réserves, notamment pour les descendants, et le législateur n'a pas abrogé le droit des réserves. Il y a une simple réduction, hein, du droit des réserves avec le nouveau droit qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2023. C'est pas tout de suite, hein. Mais la réserve des pères et mères, si on n'a pas de descendants encore aujourd'hui dans le droit actuel, sont descendants, vos propres parents ont une part réservataire dans votre succession. Ce droit-là va disparaître. Il n'y aura plus de réserve des pères et mères. C'est une notion un peu ancienne qui va disparaître. Et puis, la réserve des descendants va être réduite à une demi. Elle est aujourd'hui de trois quarts. Donc, le nouveau droit va donner des possibilités plus grandes aux personnes de pouvoir disposer de leur patrimoine sous réserve des réserves, notamment la réserve du conjoint survivant et la réserve des descendants.
Et là, vous voyez arriver quoi ? Plus de conflits ou bien plus d'apaisement et plus de liberté ?
Moi, je vois toujours plus de liberté quand on donne plus de liberté aux gens. Il est clair que dans une situation successorale, le premier conseil que je donne toujours aux gens quand ils ont plusieurs enfants, c'est d'essayer de respecter l'égalité de traitement. Et c'est primordial.
Et vous, Christian Junot, que vous a inspiré ce témoignage de Natacha, qui dit avoir trouvé l'équilibre malgré le fait qu'elle ait eu du mal à accepter l'héritage ?
Oui, parce que déjà, je suis complètement d'accord avec ce que disait Madame Tonnet tout à l'heure. Et c'est vrai qu'au moment où il y a le décès, il y a aussi un autre deuil à faire, c'est qu'on n'aura plus jamais ce qu'on aurait aimé recevoir. Et ça, c'est un vrai deuil à faire, parce que souvent, ce qu'on aurait aimé recevoir, on ne parle pas d'argent, évidemment, on parle d'attention, on parle d'amour. Et là, à un moment donné, on va, et je mets vraiment des guillemets, hein, sur se contenter de quelque chose d'autre qui aura un poids symbolique, qu'on peut le voir en l'occurrence, et je dirais même qui va faire du bien. Parfois, suivant les situations, ce ne sera pas suffisant. Si effectivement j'avais déjà pas mal d'argent, que je reçois encore un peu plus, je ne vais pas forcément y accorder d'importance, j'aurais préféré autre chose. J'aimerais juste relever sur le droit, je suis très content de savoir qu'effectivement que ce changement de droit, qui est toujours une part obligatoire pour les enfants, parce que je vois tellement à quel point ça peut être parfois un sujet de pression d'un parent vis-à-vis des enfants, sous-entendu, si tu veux hériter ta part, t'as intérêt à te montrer comme une bonne fille ou un bon fils jusqu'au bout. Encore dernièrement, j'entendais quelqu'un qui disait, on est en période de Noël, pas de visite, pas de cadeau de Noël. Un parent qui disait, autrement dit, tu n'auras pas ton argent de Noël parce que tu ne fais pas la visite. Vous voyez, à un moment, les jeux de pouvoir qui peuvent se jouer là, et heureusement, effectivement, qu'une part est réservée parce qu'autrement, ça peut vite être malsain.
Qu'est-ce qui se cristallise précisément au moment d'un héritage ?
Je dirais que j'ai vécu beaucoup de successions comme conseiller en placement financier durant 17 ans quand même. Et effectivement, je voyais toujours ça comme le baromètre de voir à quel point les familles, les fratries s'entendaient bien ou pas. Je dis souvent au décès du premier, en général, ça passe parce qu'il y en a un qui est encore là, si les parents sont encore ensemble. Mais au décès du second, là, c'est le vrai test. Et là, on peut voir effectivement tout ce qui n'a pas été dit, toutes les colères non dites, tous les sentiments ou perceptions d'injustice qu'il y a eu, qu'ils soient autant d'un point de vue financier, parce que on parle d'équité, mais l'équité, c'est de façon tout à fait relatif. On a peut-être payé des études à un, puis l'autre n'a pas fait d'études. Enfin, il y a tellement de choses qui se sont jouées, qui fait que de toute façon, si on veut voir de l'injustice, on aura toujours une occasion d'en trouver. Donc là, à ce moment-là, on va vraiment voir toutes ces perceptions qui fait qu'on a l'impression que ça n'a pas été équitable et je vais vouloir peut-être faire payer à l'autre ce que je n'ai pas reçu. Voilà, mais ce sont encore une fois des perceptions avant tout.
Là, Natacha a dit qu'elle a utilisé l'argent de son père, même si ce n'était pas forcément simple. Il y a des gens qui n'osent pas toucher un héritage. Quelles sont les peurs qui peuvent apparaître au moment où on reçoit de l'argent, ce qui est censé quand même être une bonne nouvelle?
Oui, c'est vrai. Alors, je dirais qu'il y a deux aspects qui me viennent. La première, c'est suivant la manière dont les parents ont gagné cet argent-là. Quand j'ai des exemples, les parents ont gagné durement cet argent-là, qu'ils ont trimé, pour prendre cet exemple, où ils ont économisé sou après sou. C'est comme si les personnes qui héritaient avaient beaucoup de difficultés à se faire plaisir. C'est comme si se faire plaisir, c'était presque indécent vis-à-vis de tous les efforts et toute la sueur qu'il y avait eu à côté. Et qu'effectivement, ils vont garder ça sans savoir qu'en faire, sans savoir comment le toucher. Donc ça, c'est un premier piège. Le deuxième, c'est quand il y a de l'argent qui se transmet parfois de génération en génération et qu'ils reçoivent cet argent-là, c'est comme s'ils recevaient un fardeau parce qu'ils avaient dans leur tête « Ouh là là, je vais devoir moi, à mon tour, transmettre cela à mes descendants, à mes enfants et ne pas faire de bêtises ». Et tout à coup, ça devient effectivement compliqué. J'ai vraiment vu des gens avoir de nouvelles peurs qu'ils n'avaient pas le jour où ils ont hérité d'argent. Et vraiment, c'était un vrai stress de venir me voir.
Oui, je pense que c'est un problème de loyauté. Loyauté à la famille, loyauté même aux générations antérieures, qu'on a pour peu même pas connues, en fait, des arrière-grands-parents, des parents, etc. Et l'argent que l'on touche dans un héritage soulève tout à coup ces problèmes de loyauté au clan, au sens large du terme. Et c'est souvent marrant, mais c'est lié principalement à l'éducation aussi que les gens reçoivent. Est-ce que vous venez d'une famille qui est dispendieuse, où on dépense l'argent, où il n'y a aucun problème par rapport à la dépense de l'argent, ou est-ce qu'au contraire, l'argent, on le gagne difficilement, même si on en gagne beaucoup ou peu, c'est égal, mais on le gagne difficilement, puis on ne dépense pas parce qu'on n'achète que ce dont on a besoin. Et on voit aussi apparaître peut-être dans les nouvelles générations des gens qui ne veulent plus dépenser de l'argent et gaspiller en fait leur argent dans une société de consommation qui dégoûte une génération plus jeune et qui maintenant se dit non, ma foi, tant pis, l'argent, je le garde et puis je ne vais pas partir en vacances aux Maldives avec cet argent parce que je ne veux pas prendre l'avion parce que, enfin voilà.
Oui, j'aime bien cette notion de loyauté parce qu'au fond, une partie de mon travail, c'est justement de s'autoriser déloyal. Autrement dit, donc déloyal, c'est pas un rejet ni un manque d'amour ou de respect, c'est juste une autorisation à faire autrement. Et une autorisation à faire autrement, ça peut être par exemple de se faire plaisir avec cet argent-là plutôt que mes parents n'ont pas osé. Et c'est justement parce que, au fond, est-ce qu'on est là juste toute notre vie là pour se restreindre et puis un jour avoir des regrets, si j'aurais bien aimé que, ou est-ce que finalement on est là pour se faire plaisir peut-être aussi d'une manière qui a du sens, évidemment, je pense pas forcément de la manière de gaspiller, mais peut-être se faire plaisir, ça peut être de voyager une fois en famille à travers le monde, ça peut être s'autoriser à faire un nouvel emploi qui me plaît plus et prendre 2-3 risques que je n'aurais pas osé prendre autrement, et grâce à cela je vais pouvoir le faire, et c'est une manière aussi d'honorer aussi peut-être les générations d'avant qui ont fait en sorte que cet argent existe.
Laure Tenet, vous parliez à l'instant de clan au sens large, être loyal par rapport à son clan. Comment est-ce que le nouveau droit prend en compte ce clan élargi? Parce que cette loi n'avait pas été changée depuis 1912. Or, les familles d'aujourd'hui ne sont plus du tout celles de 1912. Donc comment est-ce qu'on prend en compte aujourd'hui, dans les héritages, les familles élargies? Alors,
et les familles recomposées, ça c'est un des problèmes qu'on a en fait nous comme conseillers juridiques quand on a affaire à une famille recomposée, famille que l'on retrouve de plus en plus dans la société actuelle, et le droit qui est ancien n'est pas fait pour ces familles recomposées. Le nouveau droit ne va pas changer fondamentalement là-dessus, puisque ce n'est que le droit des réserves qui est modifié. Les héritiers tels qu'ils sont définis par le Code civil sont toujours les mêmes. D'abord les descendants et le conjoint, puis si on n'a pas de descendants, les parents du défunt, respectivement les frères et sœurs du défunt, etc. Ça ne change pas. Le nouveau droit ne tient pas tellement compte des familles recomposées. Moi, je ne peux que conseiller à des familles recomposées de prendre des dispositions successorales, en tout cas de se renseigner, de savoir comment ils peuvent protéger les patrimoines, si on ne veut pas qu'un patrimoine change de lit. Ça fait un peu ancien vocabulaire tout ça, mais c'est quand même ça l'idée. Quand on a une famille recomposée avec des enfants d'un premier lit, puis des enfants d'un deuxième lit, selon l'ordre des décès, eh bien le patrimoine va automatiquement, si on ne prend pas de disposition successorale, va changer de lit et on va se retrouver avec des enfants qui vont être dotés de biens avec lesquels ils n'ont aucun lien familial en fait. Mais je pense que soit les gens sont attachés au clan et à l'idée du patrimoine qui doit descendre en ligne directe descendante, soit les gens ne sont plus attachés. Elles ont dépassé cet attachement au clan parce que notre société évolue et on voit que la société évolue quand même. Et dans ce cas-là, c'est moins grave, c'est moins important pour ces gens-là.
Vous écoutez les Échos de Vacarme et on parle héritage et succession jusqu'à 10h ce matin. Voici Benjamin Biolay, ton héritage.
Nous avons été informés du décès de X. La justice de paix du district vous exprime toute sa sympathie dans votre deuil. Conformément à la loi, le juge de paix doit prendre les mesures conservatoires dictées par le code civil en vue d'assurer la dévolution de la succession aux héritiers. Dès lors, nous vous remercions de bien vouloir nous adresser dans les délais tous les renseignements suivants, nom et adresse de tous les héritiers légaux, si la personne décédée n'était pas de nation.
Si tu aimes les soirs de pluie, mon enfant, les ruelles de l'Italie et les pas des passants, l'éternelle litanie des feuilles mortes dans le vent qui pousse un dernier cri, cri mon enfant. Si tu aimes les éclaircies, mon enfant, prendre un bain de minuit dans le grand océan. Si tu aimes la mauvaise vie, ton reflet dans les temps. Si tu veux tes amis près de toi tout le temps. Si tu pries quand la nuit tombe, mon enfant, si tu ne fleuris pas les tombes, mes chéris les absents. Si tu as peur de la bombe et du ciel trop grand. Si tu parles à ton ombre de temps en temps. Si tu aimes la marée basse, mon enfant, le soleil sur la terrasse et la lune sous le vent. Si l'on perd souvent ta trace dès qu'arrive le printemps. Si la vie te dépasse, passe mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu oublies les prénoms, les adresses et les âges, mais presque jamais le son d'une voix, un visage. Si tu aimes ce qui est bon, si tu vois des mirages, si tu préfères Paris quand vient l'orage. Si tu aimes les goûts amers et les hivers tout blancs. Si tu aimes les derniers vers et les mystères troublants. Si tu aimes sentir la terre et jaillir le volcan. Si tu as peur du vide, vide mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Si tu aimes partir avant, mon enfant, avant que l'autre s'éveille, avant qu'il te laisse son plan. Si tu as peur du sommeil et que passe le temps. Si tu aimes l'automne vermeil, merveille, rouge sang. Si tu as peur de la foule, mais supporte les gens. Si tes idéaux s'écroulent le soir de tes 20 ans. Et si tout se déroule jamais comme dans tes plans. Si tu n'es qu'une pierre qui roule, roule mon enfant. Ça n'est pas ta faute, c'est ton héritage. Et ce sera pire encore quand tu auras mon âge. Ça n'est pas ta faute, c'est ta chair, ton sang. Il va falloir faire avec, ou plutôt sans. Enfant.
Voilà. Maintenant, ça fait bientôt un an qu'il est dans le tiroir. Je lui parle et on attend les conclusions finalement de ce qu'on peut appeler sa mise en faillite. C'est le couvercle de l'urne. C'est un peu une punition. J'ai dit, eh ben Arthur, tu nous as caché des choses. Nous, maintenant, ça nous a mis dans une petite difficulté passagère. Et puis, tant que ce n'est pas réglé ça, ben, on te garde avec nous. Et puis après, on va te libérer. Quoi. Donc, j'ai commencé. Il m'avait donné ses accès à ses comptes bancaires parce que je m'occupais un peu de ses paiements et de ces choses-là. Et puis, effectivement, il y avait un peu d'argent, on va dire 3000 francs peut-être sur le compte, que j'ai sorti. Et puis, que j'ai mis en réserve pour payer une entreprise pour le déménagement. Après, mon oncle a reçu une lettre, et dans un deuxième temps, moi et mon père aussi, en disant que la succession avait une dette. Les dettes étaient énumérées, il y avait un montant d'environ 11 000 francs. Le juge suggérait de répudier la succession. J'ai directement pris contact avec finalement l'office des faillites à Genève, puis je leur ai expliqué le cas, puis ils m'ont demandé « ramenez tous les documents que vous avez ». Évidemment, il y a énormément de papiers que j'avais jetés, parce que je trouvais que ça n'avait aucun sens. Je leur ai amené un dossier assez complet, je leur ai expliqué la situation, je leur ai donné les clés de l'appartement, et tout ça, il y a environ maintenant 9 mois, et puis j'ai plus de nouvelles.
Parce que le risque, si on ne répudie pas une succession qui a des dettes, c'est lequel ?
Ben, ça va sur les successeurs, toujours. Si mon père et mon oncle répudient la succession, eh ben, la succession elle arrive sur moi et mon frère, automatiquement. Et nous, on doit la répudier, puis on s'est dit, ça peut aller sur les enfants, après. Ça commençait à venir compliqué, mais j'imagine que la loi, c'est une mécanique. Et puis qu'il y a une espèce de logique qui va là-dedans. Et ça, jusque-là, les choses, je peux les comprendre. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'on n'a pas d'apprentissage autour de la succession. Vous avez un décès, on vous laisse 3 mois pour réfléchir sur à peu près tout. Indépendamment du départ d'une personne, vous êtes un peu désœuvré par rapport à qu'est-ce que je dois faire. Alors, soit vous prenez un notaire, puis vous investissez de l'argent, parce qu'un notaire va vous coûter comme ça, qui va, lui, vous expliquer un certain nombre de choses, puis étudier un certain nombre de pièces. Soit vous connaissez très bien la personne qui est décédée et puis vous savez que vous n'allez rien découvrir de spécial. Et puis dans ce cas-là, je croyais la connaître. Puis en même temps, ben, y a quand même 1 ou 2 enfants dans le dos. Quoi. Mais je ne suis pas totalement étonné. Mais c'est pour ça qu'il est encore là et pas au lieu et vous l'êtes dispersé pour le moment.
Il est un peu puni.
Un petit peu puni, oui. Mais il l'aurait compris.
Christian Junot, vous évoquiez tout à l'heure les expressions françaises comme gagner sa vie, comme régler ses comptes, voilà, qui sont très nombreuses liées à l'argent dans notre langue. Ici, faire payer, alors ça prend vraiment tout son sens.
Oui, tout à fait. C'est vrai que c'est un côté, j'ai dit, presque amusant, j'ai envie de dire, de cette manière d'entendre ça. Mais on voit qu'il y a quelque chose de symbolique quelque part dans le fait de dire, voilà, on garde l'urne, parce qu'au fond, dans les faits, ça ne change rien du tout. Mais c'est comme une manière comme de dire, bon, je ne vais pas me laisser faire comme ça. Alors évidemment que dans cette situation, c'est jamais agréable et confortable de devoir passer des heures et des heures pour finalement juste boucler quelque chose dans lequel on n'aura même rien du tout en retour. Donc, j'irais dans l'équilibre donner-recevoir, c'est pas équilibré du tout. Donc, c'est dans ce sens-là que je sentais qu'on disait, bon, ben voilà, t'as voulu nous laisser un fardeau sans nous le dire, eh ben nous, on va essayer de trouver une manière d'équilibrer le donner-recevoir, mais c'est encore un leurre, tout ça.
Alors, à propos de l'heure, on comprend bien en vous entendant qu'on projette énormément sur l'argent. Quelles sont les équations, les fausses équations qu'on a dans notre esprit ? C'est quoi ? Argent égale bonheur ? Argent égale amour ? Argent égale sécurité ?
Oui, donc tout à l'heure quand j'ai dit effectivement que nous donnions un pouvoir à l'argent que l'argent n'a pas, je dirais les grandes projections qu'on entend le plus souvent, c'est argent égale sécurité, argent égale liberté. Mais bonheur ou confort de vie, mais aussi argent égale source de conflit, argent égale injustice. Donc on voit que c'est du 180 degrés. Alors c'est vrai que moi-même, j'étais dans argent et sécurité pendant 10 d'années. Donc j'essayais d'accumuler de l'argent en me disant plus j'aurai d'argent, plus je serai sécure. Et au fond, c'était juste un piège parce que j'avais projeté la sécurité uniquement parce que j'étais moi-même très insécure, très stressé, beaucoup de manque d'estime de moi et même manque d'amour de moi également. Et ce qui fait que ce côté un peu branlant à l'intérieur, très insécure, j'essaie d'aller le compenser à l'extérieur. Et je dis souvent en m'amusant, si vraiment l'argent c'était la sécurité, faites un petit test, prenez tout l'argent que vous pouvez, vous en bourrez les poches, vous allez dans les métros de Lausanne, crâne quand c'est bourré de monde et vous devez vous sentir super en sécurité, vous avez plein d'argent avec vous. Et comme c'est exactement l'inverse qui se passe, ça montre bien que ça marche pas si bien que ça. Donc voilà.
Laure Tonnet, qu'est-ce qui se passe au niveau de la loi? Là, on a entendu un monsieur qui hérite de dettes et qui dit que la loi est une mécanique. Alors expliquez-nous un peu cette mécanique.
Oui, alors ça se passe comme ça en fait. Si vous acceptez purement et simplement une succession, eh bien vous devenez héritier non seulement des actifs, hein, des biens de la personne, que ce soit ses comptes bancaires, sa voiture, ses immeubles, s'il a des immeubles, mais vous devenez aussi héritier de ses dettes. Et quand les dettes sont plus élevées que les actifs, eh bien vous vous retrouvez à devoir payer les dettes d'un tiers. Ce qui peut sembler injuste, mais enfin c'est la mécanique de la loi. Quand on accepte purement et simplement une succession, il faut savoir que si on est héritier et qu'on ne fait rien, alors on accepte purement et simplement une succession. Et c'est là peut-être que c'est dangereux. Il faut être actif quand on est désigné comme héritier, hein. Soit qu'on est un héritier légal de par la loi, soit qu'on est désigné par testament, dans un testament. Et quand on est héritier, on a en fait trois possibilités. Soit on accepte purement et simplement la succession, sans agir, ou en écrivant à la justice de paix ou à l'autorité, dans d'autres cantons, ce sont d'autres autorités, hein, d'ouverture de succession. Soit on refuse purement et simplement la succession parce qu'on décide qu'on ne veut pas prendre de risques, ou alors qu'on décide qu'on ne veut pas hériter de la personne en question parce qu'on a un conflit de loyauté ou un conflit, des conflits anciens avec cette personne-là. Il faut savoir que quand on refuse une succession, on est remplacé par ses propres descendants. Donc quand on refuse une succession et qu'on a des enfants mineurs, il faut refuser la succession en son nom et au nom de ses enfants mineurs. Et quand on a des enfants majeurs, il faut avertir ses propres descendants qu'ils doivent aussi refuser la succession, respectivement leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, et ainsi de suite. Hein, donc c'est quand même, il y a toujours un piège hein, dans ces, dans ces solutions mises en place par la mécanique de la loi, comme dit le neveu d'Arthur.
Le petit neveu d'Arthur. Mais alors, attendez, mais ça s'arrête où? Ça veut dire qu'il y a des enfants à naître qui sont déjà héritiers de quelque chose?
Alors les enfants à naître ne vont pas encore hériter au moment parce qu'ils sont pas nés au moment du décès hein, donc non cela là là il y a pas besoin de on n'a pas besoin de refuser une succession au nom de ces futurs enfants à naître, non. Mais il y a une troisième solution qui peut parfois être une solution plus je dirais intermédiaire, qui est le fait qu'on peut accepter sous bénéfice d'inventaire, notamment pour le petit neveu d'Arthur, il aurait pu demander un bénéfice d'inventaire. Alors l'inconvénient de cette solution, c'est qu'elle coûte quelques frais. Mais il vaut mieux parfois payer quelques frais plutôt que d'accepter des dettes qui peuvent vous mettre dans une situation extrêmement inconfortable. Les dettes peuvent être importantes.
Hein. Donc, quand on refuse une succession, on a 3 mois pour refuser, c'est bien ça? Et ça, c'est un délai qui est valable dans tous les cantons?
Oui, oui, c'est un délai légal du Code civil, oui. À partir du moment de la connaissance du décès. Mais c'est un, voilà. C'est un délai qui, en pratique, est un peu plus souple. Mais par sécurité, il faut soutenir à ce délai-là. Je crois, au niveau du conseil en tout cas.
Le petit neveu d'Arthur dit qu'on n'apprend pas à gérer une succession. Est-ce que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup plus apprendre, qui devrait être moins tabou?
Alors je ne sais pas si on devrait apprendre, parce que à quel moment on apprend ça et au moment où ça arriverait, ça serait peut-être plus, on serait plus à jour du tout. Mais en tout cas, peut-être d'avoir 2-3 points de vigilance, comme l'explique très bien Madame Tonnet, ça me paraît important parce que moi j'ai quand même vécu des personnes se retrouver dans des sales situations. Parce que par manque de connaissances ou peut-être par manque de demande de conseil ou de conseils, donc je pense que ça mériterait en tout cas d'avoir quelques points de vigilance.
Alors racontez-nous quelles sont les situations les plus explosives.
Oh ben en tout cas, justement, c'est d'avoir des personnes qui se sont retrouvées tout à coup par manque de précaution avec des dettes qu'ils ne s'attendaient pas. Et surtout quand ça vient, je pense à un exemple, si en Suisse romande d'un père, ça fait quand même mal au cœur, mal au ventre de se dire oh, « mon père nous a caché tout ça et nous met dans cette situation pareille ». C'est quand même un aspect douloureux de plus. Il y a déjà le décès, le deuil, et en plus, je me retrouve avec un fardeau supplémentaire. À mon père, je vais y penser encore pendant longtemps, mais pas forcément de manière positive, parce que je vais devoir encore ramer pour essayer de compenser ses dettes.
Oui, et il faut préciser qu'il n'y a pas de limite, hein, parce qu'il y a des fausses rumeurs que les gens croient que leur responsabilité dans une succession se limite à leur propre fortune, mais pas du tout. Hein. On répond de l'entier des dettes du défunt. On reprend toutes les dettes du défunt. Et on voit que quand les gens ont des dettes, notamment des dettes d'impôts, ou des dettes, ils en ont honte. Donc il y a tout un tabou lié au fait d'avoir des dettes. Ben, c'est bien le cas de l'histoire du neveu d'Arthur. Son grand-oncle ne lui a pas dit qu'il avait des... Alors on ignore de quel type elles sont, ces dettes, mais j'imagine que ce sont certainement des dettes fiscales. Et je pense que ce tabou fait que les gens connaissent pas très bien la situation du défunt. Par avance, sauf si ce sont vos propres parents, enfin, sauf dans le cas particulier que vous mentionnez tout à l'heure, Monsieur Junot. Mais c'est vrai qu'il y a un tabou face à l'argent, mais il y a surtout un tabou face aux dettes.
Oui, en fait, moi je soupçonne l'argent et les dettes d'être un plus grand tabou encore que le sexe ou la mort. Mais ce n'est que mon avis, ou mon intuition.
Alors bon, sexualité, mort, argent, c'est les trois grands tabous de notre société, qui sont d'ailleurs très liés les uns aux autres. Mais c'est vrai que la notion de dette, c'est quelque chose qui est assez difficile. C'est-à-dire que, moi je dis la dette en tant que telle est neutre, c'est-à-dire qu'on peut faire avoir de bonnes dettes. Moi j'ai une maison, et quelle chance d'avoir une dette pour pouvoir accéder à cette maison. Et on voit qu'il y a toute une société de gens surendettés qui existent. On parlait de beaucoup d'épargne, mais on voit qu'il y a vraiment la polarité, qu'il y a beaucoup plus de personnes qui sont dans un surendettement en lien avec la consommation excessive, en lien avec la difficulté à gérer ses frustrations, de ne pas pouvoir s'offrir les choses que d'autres s'offrent peut-être. Et cet endettement-là, il fait beaucoup, beaucoup de dégâts. D'ailleurs, il existe en France des endettés anonymes, comme les alcooliques anonymes également, parce que c'est vraiment une vraie, vraie problématique. Et surtout avec les cartes de crédit, toutes les facilités qu'on a de plus en plus. Donc, c'est important de voir ça, parce que effectivement, les personnes que je vois qui sont dans les dettes me disent souvent qu'ils portent ça honteusement. Mmh. Ils se font petits, ils se cachent là où ils devraient être actifs pour trouver des arrangements. Vraiment, c'est vraiment l'inverse qu'ils font, parce qu'ils portent ça comme une honte.
Mais est-ce qu'il y a aussi une valeur symbolique à laisser une dette? C'est pas rien de laisser une dette à ses enfants sans l'avoir dit. Est-ce que par là, quelque part, il y a un bénéfice? On ne veut pas être oublié. C'est une manière d'être encore là, la dette.
Alors oui, ce serait une manière peut-être plus inconsciente de pas, parce que si c'est consciemment, c'est pas
oui,
très
c'est
sympathique
très
quand même.
C'est peut-être un manque de courage aussi de la part d'un futur défunt de ne pas avertir ses héritiers qu'il a des problèmes financiers, parce que voilà, comme vous disiez, il ne veut pas y avoir de honte liée à une dette. C'est pas forcément lié à un problème de comportement. Ça peut être la malchance aussi dans la vie d'avoir des dettes, d'être surendetté, et ça demande du courage de dire à vos enfants, respectivement à votre conjoint, j'ai des problèmes financiers, j'ai des dettes, il faudra refuser la succession quand ça arrivera. Mais je crois que c'est important que les gens le disent. Il faut nommer les choses, il faut essayer d'être transparent avec ses héritiers.
Et ce que j'ai envie de partager aussi, c'est que le fait qu'on ne partage pas, ça montre déjà qu'il y a de la honte, mais souvent aussi, c'est que je dis souvent, mais attendez, vous n'êtes pas vos dettes. C'est-à-dire que vous avez peut-être eu un moment difficile, un accident de vie qui fait que c'est cela, mais vous êtes tellement plus que ça. Mais c'est comme si les personnes elles-mêmes se réduisaient à leur situation financière, qui ne dit rien de leur générosité, de leur capacité à aimer, à s'émerveiller de la vie, ça ne dit rien de tout ça. Ça parle juste de ma situation financière.
On a aussi souvent l'impression qu'on n'est jamais assez payé, qu'on n'a pas un assez grand salaire, peut-être parce qu'on se projette trop dans son salaire. On a l'impression qu'on est ce qu'on gagne.
Alors, en tout cas, pour une partie des personnes, alors c'est très courant aux États-Unis, beaucoup plus chez nous, mais chez nous également, c'est aussi pour ça que c'est tellement difficile de parler d'argent, de revenus. Moi, j'ai tendance à forcer le pas dans mes conférences, à proposer de chaque fois de dire à ses voisins, tiens, combien vous gagnez? Il faut voir la tête des gens quand je leur propose ça, ils sont horrifiés.
Et
après coup, ils disent, ah ben, c'était pas si compliqué que ça. Et c'est vrai que ça montre, ça cache. Enfin, on a l'impression que ça cache des choses, ou ça dit des choses de nous qu'on a envie de cacher. Mais c'est encore une fois, alors, ça dit tellement peu de nous.
C'est qu'en fait, on pourrait prendre ça comme quelque chose de neutre, comme la dette, comme vous disiez.
Ben, je leur dis toujours, vous savez, ce que vous gagnez, c'est juste un chiffre. Vous allez juste dire un chiffre à la personne à côté, rien d'autre. Alors que ce n'est pas si intime que ça, mais la perception des personnes, c'est que c'est très intime. C'est quand même intéressant.
Laure Tonnet, on voit bien qu'avec ces affaires d'argent et d'héritage, on est très très vite dans des histoires très intimes, dans le fond, très personnelles. Est-ce que vous avez l'impression parfois de devoir vous transformer en psy?
Ça m'arrive, oui, bien sûr. Mais je ne suis pas formée pour être psychologue, donc je ne voudrais pas prendre la place d'un psychologue. Mais il est vrai que parfois, au niveau du conseil successoral, on se rend compte qu'on a affaire à des familles qui souffrent de problèmes relationnels, de problèmes de communication avec certains de leurs héritiers, certains de leurs descendants, des parents qui ont même parfois peur de leurs propres descendants, enfin, ou d'une de leurs descendants. Et on doit faire un travail, oui, de rassurer les gens, essayer de mettre en place des systèmes de protection pour le conjoint survivant, respectivement pour un des descendants qui est moins favorisé que l'autre dans la vie ou qui est moins bien armé face à des problèmes administratifs liés à une succession. Enfin voilà, on essaye de, comme notaire, comme professionnel du droit finalement, hein, du droit des successions, de donner des conseils, d'aiguiller les gens, sans remplacer un psychologue de famille qui lui sera mieux armé que le notaire, hein, pour donner un vrai conseil de famille. Moi je conseille quand même toujours aux gens, ce que je disais tout à l'heure, d'être le plus transparent possible, d'expliquer aussi le pourquoi du comment certains choix à leurs enfants, parce que ça permettra d'éviter des conflits ultérieurs. On parle de justice préventive auprès des tribunaux, mais là, moi, je parle de droit préventif, en fait. L'idée, c'est de dire, mais si vous êtes clair avec vos enfants, si vous êtes transparent avec vos descendants, et que vous leur expliquez pourquoi tel et tel doit recevoir cette maison-là plutôt qu'une autre, hein, ou d'autres biens, hein, ça peut être de l'argent, mais ça peut aussi être des biens immobiliers, et les explications et la communication permettent d'éviter des conflits ultérieurs.
Et quand les situations vous semblent très injustes, en défaveur d'un enfant par exemple, vous vous permettez de raisonner les gens ?
Oui, bien sûr. On a parfois des gens qui viennent pour carrément exhéréder un enfant. Hein. Exhéréder, ça veut dire vraiment sortir un enfant, hein, de la succession. Alors là, on essaye toujours de décourager les gens parce qu'on sait que ça sera forcément une porte ouverte à un conflit ultérieur, une porte ouverte certainement à un procès. Et on explique au futur défunt, au disposant, hein, celui qui prend des dispositions testamentaires de cet ordre-là, qu'il expose, il s'expose pas lui, en fait, à un procès, parce qu'il sera mort quand le procès va s'ouvrir, mais qu'il expose ses héritiers, ses autres enfants, à un procès, et que c'est lourd. C'est lourd, hein, d'aller en justice, de devoir prendre un avocat pour se défendre, raviver des douleurs certainement très anciennes, très ancrées, qu'on a voulu enfouir, hein, au sein de la famille, soit des secrets de famille, soit des tabous, parce qu'un enfant a fait des bêtises quand il avait entre 15 et 25 ans, parce qu'il s'est drogué, parce que c'est des passages qui sont très douloureux pour les frères et sœurs dans une famille. Et puis l'exhérédation, bah, c'est pas forcément une solution dans ces cas-là. Donc on essaie toujours de déconseiller effectivement ce type de solution.
Oui, effectivement, je crois que ce qui est important, c'est d'éviter effectivement que la succession devienne une patate chaude qu'on a refilée à la génération d'après, quelque part, en ne réglant pas les choses. Et c'est vrai que je vous rejoins pleinement, d'ailleurs c'est ce que je mentionne dans le livre, effectivement, c'est d'en parler idéalement en toute transparence avant pour pouvoir éviter les conflits derrière. Et je disais, dans l'idéal également, quand on sait que c'est pas tout à fait fluide entre les frères et sœurs, si je prends l'exemple là, ça serait bien de prendre un temps pour voir, d'être accompagné, pour se dire les choses, nommer peut-être tout ce qui est encore à l'intérieur qu'on n'est pas content, avant de s'occuper de cet aspect-là, parce qu'autrement, on va mélanger deux choses. On va mélanger l'aspect émotionnel et des enjeux plus subtils à des aspects administratifs et financiers. Et là, ça devient compliqué pour vous, madame. Vous connaissez bien ça.
Oui, c'est sûr.
Vous êtes toujours sur La Première et nous parlons des héritages ce matin dans Les Échos de Vacarme. Et dans ce troisième extrait de nos reportages, on va faire la connaissance de Michel qui a décidé de se débarrasser de son vivant, de ses sacs de marque, entre autres.
Voilà. Oups. Mais tu vois, celui-là, je l'avais déjà donné. Mais après, si toi, tu le veux, tu pourras l'avoir. Hein, mais...
ouais, si tu l'as déjà donné à quelqu'un, je suis foutue. Tu rigoles, mais après...
Non, mais tu sais, elle a oublié. Non, elle a oublié.
Tu crois qu'il y a une de tes copines qui aura oublié qu'elle a... Alors, je ne suis pas sûre. Hein.
Mais au cas où, celui-là pourrait être pour toi. Et il y en a encore. Bon, il y a les fameux... Non, je ne cite pas le nom non plus.
Ah ouais, non, mais le H, moi, il...
Tu veux pas,
c'est un H avec une petite calèche.
Exactement. Je n'aurais pas osé le citer, mais ça fait un peu snob.
Non, non, mais c'est mignon, mais ça sert à...
Il faut vraiment que tu choisisses ce que tu veux, parce que moi, j'aimerais qu'on mette tout en ordre.
Je comprends plus.
J'en ai tellement. On doit se délester de nos choses. Donc ça, c'est bon. Après, on fera les bijoux.
Ah, les bijoux.
Quand vous distribuez vos sacs, vous le vivez comment ?
Ah, je le vis très très bien parce que je me dis que ça me fait de la place pour en racheter un autre. Non, non, je le vis très bien. C'est du matériel, hein, finalement. C'est que du matériel, mais en tout cas, mes sacs, ils ont tous une histoire. D'un côté, ben, l'histoire, elle va plus loin. Je la raconte à la personne à qui je vais donner le sac.
C'est comme s'il fallait que l'histoire continue.
Exactement.
Mais ça veut dire que vous anticipez la fin de votre histoire quand vous faites ça.
Ah oui, mais totalement. En ce qui me concerne, je n'ai pas du tout peur de ma fin. Hein. Et même quand j'étais gamine, je faisais déjà mon testament en partant en vacances.
Vous aussi un testament gamine?
Oui, j'ai toujours fait ça. Mon papa travaillait dans la mode, donc on avait toujours des vêtements avant-gardistes. Donc toutes mes copines, cousines me disaient oh, « ce que tu as mis, c'est chouette ». Alors je me disais que c'est dommage que ça reste dans la mort s'il m'arrivait quelque chose. Donc je léguais à ma cousine ci, à ma cousine ça, etc. Donc j'ai toujours fait, toujours.
C'est quoi la dernière chose que vous avez donnée ?
C'est un vêtement, hein, mais c'est une jolie petite histoire en fait. Comme j'ai de la peine à me séparer de mes vêtements, et j'avais une robe que j'ai pas mis pendant 3 ans, et je me suis dit, ah, faut que je m'en débarrasse. Donc je l'ai donnée à justement une amie qui s'occupe de migrants. Et quelques jours plus tard, je suis allée chez elle, elle m'a dit « Ah, tu te rends pas compte, la personne qui a eu ta robe, elle l'a mise pour aller à un baptême, elle était tellement contente. » Du coup, ça a été le petit déclic qui m'a dit « Tes vêtements, allez, tu peux t'en débarrasser aussi. » Et grâce à cette personne, j'ai liquidé, je commence à liquider beaucoup plus. Et c'est vrai, tout ce qu'on a là de notre vivant, on va pas le prendre. Et c'est vrai que ça, c'est hyper important. Hein. Hyper important de se rendre compte que ce qu'on a maintenant, en gros, c'est fini. Hein. Faut en être conscient. Et ça, c'est hyper important.
Voilà, une jolie philosophie de vie qui tombe bien au lendemain de Noël. Laure Tonnet, comment vous réagissez aux propos de Michel ? D'abord, très concrètement, ces sacs à main, ces vêtements qu'on donne, ce n'est pas considéré comme un héritage.
Non, elle fait ça de son vivant. C'est donc une donation qu'on dit entre vivants. Ça permet d'anticiper, en fait.
Et c'est hors taxe ?
Oh non, c'est aussi soumis à taxes. Alors peut-être pas sur
des
valeurs, pas sur une valeur de sac à main, à moins qu'elle dépasse 10 000 francs. Il n'y a pas d'impôt sur la donation d'un sac à main. Je pense que c'est aussi important d'envisager de régler les choses, parce que finalement, elle dit à un moment donné qu'elle ne va pas partir avec tous ses sacs à main là-haut, ce qui est vrai. Enfin voilà, d'abord on est tous condamnés à mourir un jour, ça c'est la seule certitude que l'on a. Et elle dit aussi que ça lui permet de se délester d'un certain poids, de régler les choses de son vivant. Ça permet, à mon avis aussi, d'éviter les conflits justement futurs, de pouvoir régler les choses de son vivant, de faire des donations de son vivant. Moi, j'ai... Bon, là, c'est une donation de sac à main, donc en soi, c'est pas primordial pour vivre, c'est pas un besoin essentiel de la vie. Et elle peut remplacer ce sac à main par un autre sac à main. Quand il s'agit de faire des donations immobilières, notamment les gens qui veulent anticiper sur leur future succession en donnant leur appartement, respectivement leur maison, là se posent d'autres questions, notamment sur le fait que une fois qu'on a donné, eh bien, on n'est plus propriétaire. On ne peut plus disposer du bien, ça c'est quand même un élément aussi important. Il faut aussi toujours envisager la protection de son conjoint. Quand on est propriétaire d'un appartement qu'on occupe avec son conjoint, eh bien, le conjoint, il a peut-être encore besoin de cet appartement si l'on meurt en premier. Il faut aussi se poser toutes les questions liées au dessaisissement. Ça, c'est un aspect peut-être assez récent de la donation. Les prestations complémentaires, quand on fait recours à des prestations complémentaires parce qu'on ne peut plus subvenir à ses besoins, je pense notamment par rapport à une hospitalisation dans un établissement médico-social, si vous vous êtes dessaisi de vos biens, les prestations complémentaires vont mener en fait une enquête. Si vous êtes dessaisi de vos biens en faveur d'une personne qui s'est enrichie, eh bien peut-être que vous lui avez fait un cadeau empoisonné et qu'il devra subvenir à vos besoins à la place des prestations complémentaires. Et ça, c'est des questions que l'on examine toujours quand il y a une donation, notamment immobilière.
On donne de plus en plus de son vivant aujourd'hui, parce qu'on meurt de plus en plus tard aussi, et donc on souhaite que ses enfants puissent bénéficier davantage d'argent plus jeunes.
Oui, je crois. Il faut savoir que la durée de vie moyenne en Suisse est quand même très longue. C'est 87 ans, sauf erreur, pour les dames et 84 ans pour les messieurs. Donc ça fait quand même une espérance de vie extrêmement longue. On meurt quand on a atteint le 4e âge. Et vos enfants, eux, ils ont dans l'intervalle atteint le 3e âge. Donc ils n'ont peut-être plus besoin d'autant d'argent que si quand ils avaient 30 ou 40 ans et qu'ils voulaient justement investir dans l'achat d'une maison pour y vivre avec des enfants ou dans un appartement. Je ne sais pas, Monsieur Junot, si vous partagez cet avis.
Alors, je partage cet avis. D'une part, c'est aussi ce que j'essaie de faire avec mes enfants aussi, c'est de les soutenir chaque fois que c'est nécessaire, en tout cas, au bon âge, au bon moment, en fonction de nos moyens, évidemment. Parce que je pense que j'ai vu à l'époque, j'étais conseiller en placement financier, tellement de personnes hérité à un moment donné où ça n'avait plus vraiment de sens pour eux. Alors après, on peut transmettre encore à un étage en dessous, mais après, il y a sûrement des complications peut-être fiscales aussi.
Ça, c'est sûr.
Voilà,
oui.
C'est ça. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine d'y réfléchir. C'était juste dans le témoignage tout à l'heure, j'étais quand même intéressé. J'écoute beaucoup les mots et plusieurs fois, elle a utilisé le mot « se débarrasser ». Et ça parle quand même d'une sorte de poids quand même quand on se débarrasse, parce qu'on peut donner avec plaisir, avec le cœur. Quand on se débarrasse, je ne dis pas qu'il n'y a pas de plaisir à donner, mais il y a quand même un petit autre chose qui est caché derrière, je pense.
Ah, quoi ? Dites-nous.
Ben justement, à chaque fois qu'on veut se débarrasser, c'est pour amener une forme de soulagement quelque part. Parce que moi, quand je donne quelque chose, je ne me débarrasse pas de quelque chose, je le donne avec plaisir. Ce n'est pas la même énergie pour moi. Donc qu'est-ce que représentent ces choses-là qui fait qu'elle veut s'en débarrasser ? Ce serait plutôt ça la question que je poserais.
Elle dit aussi qu'elle s'amusait à faire des testaments quand elle était petite. Mmh. J'imagine que ce n'est pas un jeu d'enfant très courant.
Je ne crois pas que ce soit très courant.
On dit même que 6 personnes sur 10 meurent sans avoir rien rédigé. Qu'est-ce que vous préconisez ?
Bon, alors je pense qu'il y a des cas de figure dans lesquels il faut absolument que les gens rédigent leur disposition successorale. Notamment les célibataires sans enfants. Notamment les couples recomposés, enfin les familles recomposées, il faut prendre des dispositions pour protéger le patrimoine, respectivement pour protéger le conjoint par rapport à ses descendants. Je pense aussi aux couples non mariés, la protection du concubin n'existe pas. En droit suisse, il y a zéro protection du concubin en droit suisse.
Et ça ne changera pas l'année prochaine.
Et ça ne changera donc malheureusement pas l'année prochaine. Hein, ça a été écarté du projet de loi successorale. Donc, les gens qui sont dans ces situations-là doivent absolument consulter un professionnel du droit, que ce soit un notaire, un avocat spécialiste, une fiduciaire qui a des juristes spécialisés là-dedans. Donc, je crois que c'est vraiment important d'envisager sa propre mort et de se dire qu'est-ce que je mets en place pour protéger les gens que j'aime, protéger les gens qui vivent avec moi, les gens qui s'occupent de moi, les gens qui passent du temps avec moi. Je crois que c'est vraiment important de le faire et de se poser cette question-là.
J'ai pu voir dans mon ancien métier à quel point, quand on suggérait à des clients effectivement de se questionner là-dessus, ceux qui disaient « ah oui, merci », ils avaient comme besoin de ce coup de pouce, et ceux qui disaient « pas question ». C'est-à-dire que juste d'en parler réveille une peur de la mort tellement forte qu'ils rejetaient ça, mais d'un revers de main, c'était exclu. Et c'est vrai que la mort est comme un sujet très tabou. J'en veux pour preuve, c'est combien d'entre nous avons-nous pris une soirée une fois avec des amis et dit « au fait, ça te fait quoi l'idée de mourir un jour ?» On sait tous qu'on va mourir un jour, mais on n'en parle jamais comme ça n'existait pas. Pourtant, c'est une vraie bonne question, je trouve.
Et vous alors, êtes-vous paré face à la mort ? Est-ce que vous avez pris chacun vos dispositions testamentaires pour protéger vos proches ?
Alors moi, pas encore, parce que je suis encore dans une situation de famille où mes enfants, enfin où le système légal qui protège et les enfants et le conjoint est un système qui est adapté à mes besoins. Il faut savoir que les besoins de protection changent en fonction de son âge et surtout de sa situation familiale. Quand les enfants, une fois que les enfants sont hors coquille et qu'ils vivent de leurs propres ailes et qu'ils ont quitté le nid, je pense que là, il est temps de prendre des dispositions pour protéger son conjoint, notamment par rapport à un éventuel logement dont on est propriétaire, soit en commun, soit pas. Donc pour moi, c'est un peu tôt encore, mais ça va venir, c'est pour bientôt.
Oui, de notre côté, on a fait ce qu'il fallait pour protéger le conjoint survivant, justement. Nos enfants sont au courant et on n'a pas cessé de leur dire. De toute façon, l'essentiel, on va vous le donner tout au long de notre vie. Ça sera surtout de l'amour, ça sera du soutien, ça sera de la présence chaque fois que c'est nécessaire. S'il y a quelque chose, tant mieux pour vous. Mais votre vie, vous avez à la faire de toute manière, à votre manière, vous verrez bien, le bon voulu.
Merci à tous les deux d'avoir répondu à notre invitation. Laure Tonnet, vous êtes notaire à La Sara. Christian Junot, vous êtes coach, spécialiste des rapports à l'argent et auteur du livre « Ce que l'argent dit de vous » paru chez Erol. Voici Fly and the Family Stone, Family Affair.
Up to be somebody that just loves to learn, and another child grows up to be somebody you just love to burn. Mom loves the both of them, you see it's in the blood. Both kids are good and mom. It's thicker than the mud. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a
family affair.
It's a family affair.
Je crois que c'est des problèmes qui touchent tout le monde. Eh bien, raison de plus pour en parler. Tout le monde n'est pas propriétaire, mais tout le monde est confronté à la mort. Tout le monde a des parents, ou on a eu. Les problèmes d'héritage sont quand même fréquents. Au contraire, il y a une charge émotionnelle supplémentaire qui est liée au fait qu'on n'ose pas en parler.
Newlywed a year ago, but you're still checking each other out. Hey, nobody wants to blow. Nobody wants to be left out. Uh-huh. You can't leave 'cause your heart is there. But you can't stay 'cause you've been somewhere else. You can't cry 'cause you look broke down. But you're crying anyway 'cause you're all broke down. It's a family affair.
It's a family affair.
It's a family affair.
Les Échos de Vacarme, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toutes celles et ceux qui ont rendu possible cette émission. Catherine Erard, Jérôme Nussbaum, Stéphanie Coudray, Stéphanie Jovanovic et Daniel Zacker. La semaine prochaine, Vacarme rediffuse une série consacrée à l'alcool, cette drogue légale qui coule à flot, en particulier pendant les fêtes. Nous parlerons santé, addiction et prévention. Alcool, une ivresse collective. 5 reportages de Grégoire Moll à écouter demain dès 13h dans Vacarme.